Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Aujourd'hui, on va vous parler de trucs intéressants qui viennent de Meta. Oui, c'est vrai. On a aussi la FTC qui attaque Amazon et toutes les sociétés US ou presque. Et enfin, la très mauvaise modération des réseaux sociaux avec X en premier. Et oui, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Union européenne. C'est parti pour le rendez-vous tech. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, je suis Patrick Béja, c'est l'épisode numéro 533. Nous sommes en octobre 2023 et je voudrais remercier les patriotes qui ont rejoint la famille de Patreon. Fenrir D, je ne sais pas s'il y avait genre Fenrir A, Fenrir B, Fenrir C, et que lui c'est la quatrième génération de Fenrir, c'est possible. Et Benjamin Nardini qui a rejoint pendant le live, avant qu'on commence à enregistrer, mais juste avant. Donc merci beaucoup à Fenrir, quatrième du nom, et Benjamin, d'avoir rejoint la formidable famille des Patriotes sur patreon.com/rdvtech et les producteurs qu'on mentionne chaque mois parce qu'ils ont trouvé le niveau secret sur Patreon, Olivier Maury et Stéphane Lioret, merci à vous deux, merci à vous quatre. C'est grâce à vous que cette émission existe. Et merci aussi à Cédric Deluca d'être là avec nous. Bonjour Cédric, avec ton...
Bonjour Patrick,
comment vas-tu ? macOS Sonoma qui fait des zooms en changeant, ça fait battement de cœur. C'est un peu bizarre. Cédric a installé la dernière version de macOS qui apporte pas grand-chose, franchement, soyons honnêtes. Mais les fonctions de webcam ont été modifiées pour suivre le visage de Cédric, pour zoomer là où il est, là où il se déplace. Sauf que ça zoome tout le temps, même quand il bouge pas. Donc ça fait un peu, on a l'impression d'être sur un bateau, Cédric.
C'est hyper étrange.
C'est étrange.
Ne me regardez pas. Mais écoutez-moi.
Écoute, vu que c'est un podcast audio, comme tu le disais avant qu'on lance l'enregistrement.
Ouais, voilà.
Mais si tu fais les cornes du diable, les deux, ça fait genre concert. Ça fait des filtres incroyables avec des lumières, avec des lasers derrière. Ça, c'est utile.
Évidemment.
Corben, t'as pas encore installé macOS Sonoma?
Ouais. Bah sur mon portable, ouais, mais pas sur mon vieux iMac parce qu'il n'est pas compatible malheureusement. Donc j'attends les prochains M3 de je sais pas quoi et j'achèterai un M3 quand ça sortira.
Oh, oh, tu vas rentrer dans le futur de la puissance du macOS. Incroyable.
C'est ça, voilà.
Très, très bien. Moi, j'ai installé Sonoma aussi sur mon Mac, mais évidemment, pour faire... Mais qu'est-ce que tu fais avec ton zoom, Cédric ?
C'est non, mais en fait, j'essaie de les activer.
Oui, voilà. Je comprends. Moi, voilà. Je n'utilise pas mon Mac pour enregistrer des podcasts parce que je suis quelqu'un de sérieux qui stream tout ça sur Twitch tous les mardis midi, jeudi midi. Et donc, j'utilise un PC, comme quelqu'un de normal, vous voyez. Donc, je n'ai pas ces zooms bizarres sur ma webcam. Maintenant que j'ai fini de provoquer les gens qui aiment les Macs et de faire rigoler ceux qui aiment les PC...
C'est parce que t'es jaloux et tout.
C'est parce que je suis jaloux. Hey, attends. Je suis jaloux de voir tes petits ballons.
Trucs,
regarde ce que j'ai ici. Jaloux. Regarde ce que j'ai ici.
Un
MacBook Air M2 qui est
j'ai le même, mais en
bel ordinateur. Le meilleur ordinateur que j'ai eu de ma vie.
Ah, mais tout le monde, c'est parfait.
On est d'accord. C'est le meilleur
ordinateur.
Ah ouais, j'ai le même.
Il est incroyable.
De toute façon, je m'en sers pas.
Ah bah tu l'as aussi. D'accord, bon, on est tous... Ne gêne pas, Corben, quand même. Sérieux, on a tous des MacBook Air M2, là ?
Ouais, moi, ça fait un an et demi gelé.
Ouais, pareil. Je l'adore, C'est mon ordi préféré de l'histoire. Sauf que, pour streamer, c'est pas idéal. Je m'en sers quand je suis dans mon petit studio, mais... Bon.
Je m'en sers.
Mais bon. Ouais, bon. Mais le problème, c'est que si je veux tout faire tourner avec une capture vidéo de ma fenêtre Discord, il commence à ramouiller sérieusement. Donc, il tient pas tout ça quand même. Peut-être que j'ai un mauvais setup, mais...
Non, pas sûr. Après, on n'a pas du tout le même. Moi, c'est vrai que je fais que du live avec les personnes dans la même pièce et tout, donc j'ai pas cette problématique.
Ah oui, ça, pas de problème.
De capturer à distance, ouais.
C'est ça. Bon, donc, petit point Mac Sonoma. Franchement, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur la nouvelle version de macOS. Hein. Il n'y a rien d'intéressant dans cet OS, ou presque. Vous me ferez peut-être, mentir en me disant en commentaire.
C'est une itération, donc oui, c'est pas minime. Non plus une grosse mise à jour.
C'est clair,
il y a des petits trucs. De temps en temps, je découvre des petits trucs, les widgets sur le bureau, oui, etc. Oui. Je pensais que ça me servira à rien, et en fait, finalement, comme ils sont activables, comme sur, iPhone, comme j'ai toute ma domotique dessus, j'ai mes scénarios en fait et je clique directement sur mon bureau pour allumer ma lumière et tout sans bouger.
Oui,
sans
c'est
même
ça. C'est quand même une nouvelle version de l'OS, donc il y a des petites choses ici et là.
Ouais, c'est vraiment des petits trucs. Ouais, ouais.
Et du coup, maintenant que j'ai dit bonjour à Cédric et à Cédricou et Corbenou, on envoie un bisou à Jérôme qui n'est pas avec nous aujourd'hui.
Le meilleur d'entre nous.
On va lancer les infos parce que figurez-vous qu'il y a des trucs intéressants du côté de Meta. Je pensais pas redire ça un jour, mais franchement, j'ai trouvé la conférence Meta Connect, leur conférence de rentrée annuelle, assez intéressante. Il y a deux éléments sur lesquels ils ont insisté pendant cette conférence. Et évidemment, entre parenthèses, je mettrai dans la newsletter toutes les notes, tous les liens. Là, il y a un petit résumé en 16 minutes de la conférence de Meta et d'autres liens. Hein, vous le savez, tout sera dans la newsletter. Mais les trucs à retenir, en fait, c'est qu'ils ont parlé de deux sujets principaux. D'une part, la réalité augmentée, réalité mixte, on va dire, et d'autre part, l'IA. Je vous propose de commencer avec le premier. Ils ont annoncé un nouveau casque de réalité mixte, qui n'est pas juste un casque de réalité virtuelle ou augmentée, le MetaQuest 3, qui est en gros, je résume un petit peu, si vous vous souvenez de ce que fait le MetaQuest Pro, qui coûtait 1 500 €, présenté l'année dernière, et ben le MetaQuest 3 fait quasiment toute la même chose, à seulement 500 € environ, hein, je parle en approximatif, parce qu'il a des caméras intégrées à l'appareil qui lui permettent de vous reproduire le monde autour de vous dans votre casque de, entre guillemets, réalité virtuelle. Donc vous pouvez vraiment avoir de la réalité augmentée, c'est-à-dire voir le monde autour de vous et avoir des objets numériques qui se superimposent, qui se surimposent dans votre champ de vision, en plus du fait qu'il puisse faire la réalité virtuelle. C'est exactement ce qu'Apple a annoncé avec le Vision Pro. Et d'ailleurs, Mark Zuckerberg a insisté, ou l'un de ses execs a insisté sur le fait que c'est le premier casque de réalité augmentée grand public qui fait de la... En gros, ils n'ont pas dit le mot « spatial computing », informatique spatiale, mais c'était exactement le même type de démonstration, le même type de produit, peut-être un petit peu moins focalisé chez Meta que chez Apple. Donc, on a vraiment une offre qui est intéressante à ce niveau-là. On pourra en parler dans un instant. Puis, il y a une autre chose dont je n'imaginais pas qu'elle serait intéressante, mais qui, au final, est plutôt sympathique, c'est la nouvelle version des lunettes Ray-Ban. Elles s'appelaient les Ray-Ban, je ne sais plus, Connected Glasses ou un truc comme ça. Maintenant, c'est les Ray-Ban Smart Glasses. Et la différence importante, alors il n'y a toujours pas d'écran dans ces lunettes, hein, on ne peut pas voir quoi que ce soit, mais il y a un haut-parleur avec un son de meilleure qualité et une caméra, enfin un appareil photo qui fait aussi des vidéos de meilleure qualité, on est à 12 mégapixels au lieu de 5 et une autonomie un petit peu accrue. Mais la grosse différence, c'est qu'il y a une version de l'assistant Meta, l'assistant de d'intelligence artificielle de Meta, qui est disponible par les lunettes. Donc ça fait un petit peu une sorte de réalité augmentée, pas visuelle, mais audio. C'est-à-dire qu'on peut demander à l'assistant qu'est-ce qu'il y a juste devant moi, on peut lui poser des questions sur ce qu'on voit.
Oui, traduis-moi le menu.
Traduis-moi quelque chose, explique-moi ceci, qu'est-ce que tu penses de cela, etc. Donc il y a cette nouvelle interface homme-machine qu'est l'intelligence artificielle, que permet l'intelligence artificielle, puisqu'elle va comprendre le langage naturel et répondre en langage naturel, qui est intégré à ses lunettes. En plus de ça, on peut par exemple faire du streaming avec les lunettes, si on est bien sûr toujours connecté au téléphone, hein, mais on peut faire du streaming live sur Instagram et passer de la caméra de son téléphone à la caméra des lunettes, ce qui, à mon avis, là, pour le coup, a une vraie utilité pour un type de public particulier, évidemment, mais qui a une vraie utilité. J'étais surpris. Je ne sais pas que je vais aller acheter les Ray-Ban connectés, mais tout à coup, là où la première version, je me suis dit, ouais, bon, c'est une blague, ça ne sert à rien, ça n'ira nulle part. Cette deuxième version, je me dis, OK, je vois où ils veulent en venir, où je vois où ça pourrait aller potentiellement. Et bien sûr, le casque Meta Quest 3, qui peut faire de la réalité augmentée et qui peut, par exemple, faire des choses hyper intéressantes, comme poser ce qu'ils appellent... comment ils l'appellent déjà ? Je ne me souviens plus du nom qu'ils ont donné à ces petits éléments. Oui, des augments, c'est-à-dire des petits éléments 3D informatiques qu'on peut poser dans notre environnement, chez nous, quelque part, et ils y restent. C'est-à-dire que quand on a le casque sur le visage, eh ben, si on a posé un petit bibelot sur une commode virtuellement dans notre environnement virtuel, eh ben, il va rester là et on pourra le voir. Et il peut y avoir des trucs qui ont des fonctions informatiques, des trucs qui donnent la météo, qui donnent des informations, etc., etc. Qu'est-ce que vous pensez de ces deux appareils, Cédric ? J'imagine que tu as dévoré cette conférence, ou en tout cas que tu as un avis sur ces deux trucs.
Oui.
Est-ce que tout à coup, il te l'a vendu, Marcou ?
Alors, en fait, ce produit-là sent quand même notre version pro, en fait, on n'a pas réussi à la vendre autant qu'on aurait souhaité, faut pas se mentir, hein. Parce que bah, c'était cher, et qu'en fait aujourd'hui on est encore avec le problème de que va-t-on faire du métaverse et que va-t-on faire de ce type de casque. En fait, enfin, là on est en 2023, on commence à entrevoir des usages, mais il n'y a toujours pas le système seller, en fait, il n'y a toujours pas le truc qui fait que ok, je vais l'acheter. Et ça sent le recyclage dans une version un peu plus cheap. Je ne dis pas qu'elle est cheap en termes de fonctionnalité, hein, mais meilleur marché pour justement essayer de convaincre le public par le prix, finalement, plus que par la fonctionnalité. C'est un bon casque. Honnêtement, c'est un bon casque. Maintenant, ils le brandent plus Mixed Reality ou AR que VR, mais jusqu'à maintenant, c'était des casques VR. On en parlait comme des casques VR. On parlait de métaverse où on rentre, en fait. On s'isole du reste de l'univers classique, de Terre 1, si on devait paraphraser.
Certains ont remarqué qu'ils n'avaient quasiment pas parlé de métavers. On y reviendra tout à l'heure, un petit peu plus tard dans l'émission.
Ouais, ouais.
Mais effectivement, dans la conférence elle-même, il n'a quasiment pas dit le mot métavers.
Mais honnêtement, en fait, il y a ce virage vers plutôt ce que nous vend Microsoft depuis des années, la Mixed Reality avec les HoloLens et même avec tous les casques tiers qui étaient sortis, qui intégraient une caméra pour nous permettre de voir un peu au travers. Alors, c'était les casques Acer, etc., rappelez-vous. C'était quand même du bricolage, on était au balbutiement du truc.
Parce que là, ça marche.
C'était pas abouti, là, il manquait l'interface. Non, mais je suis d'accord. Là, en fait, la nouveauté aussi, c'est que, en fait, avec le 2, déjà, il y avait cette idée-là où on voyait... en noir et blanc, le monde qui nous entourait, avec des limites, des objets, etc. Là, maintenant, c'est en couleur. La nouveauté, c'est ça. Et en fait, ils ont poussé à fond l'usage de ça. C'est-à-dire qu'il est équipé de caméras suffisamment bonnes pour que l'expérience, quand on utilise... Enfin, c'est ce qu'ils nous vendent, en tout cas, je ne l'ai pas encore essayé, mais que l'expérience, en fait, qu'on nous vend, elle se rapproche finalement de ce que va nous proposer Apple avec le Vision Pro. C'est-à-dire, je suis vraiment dans le monde normal, avec des vrais gens autour de moi. Et je peux me déplacer avec ce casque sur les yeux sans foncer dans un mur, c'est la base, alors qu'il est entièrement fermé. Quand même. Hein. Et effectivement, je vais superposer des objets, etc. Je sens arriver le NFT de « je pose mon NFT dans mon salon et quand je mets mon casque ». Parce qu'en fait, le métaverse, il ne faut pas l'oublier. Hein. À la base, il était aussi là pour le Libra, donc leur crypto. Le NFT, ils nous avaient vendu tout un univers incroyable où on allait pouvoir… on allait pouvoir vivre et presque travailler en vendant le fruit de nos créations artistiques en NFT, etc. Non, mais il y avait vraiment cette idée de on va recréer un monde par-dessus le monde dans lequel on vit. Je pense qu'en fait, ils ont fait le deuil de cette idée. Et maintenant, en fait, ils sont plus
sûrs. Je pense que beaucoup de gens ont fait le deuil des NFT, donc plus...
Mais on va plutôt faire en fait un truc qui va servir aux gens. Et c'est là qu'en fait, le spatial computing, la façon dont nous l'a vendu Apple était beaucoup plus pertinente dans l'idée où, en gros, c'est votre ordinateur, on ne va pas réinventer un truc, c'est votre ordinateur, sauf que les fenêtres, au lieu d'être dans un écran, elles seront en dehors de l'écran. C'est littéralement ça. C'est-à-dire que quand ils parlent de petits objets qu'on dépose et qui indiquent la météo, ouais, ok, le widget météo de Sonoma ou de l'iPhone qu'on a dans le Vision Pro et qu'on met contre son mur, c'est exactement ça, en fait. Il n'y a rien de nouveau, même par rapport à HoloLens, qui le faisait déjà. Simplement, HoloLens, la différence, c'est qu'on n'utilisait pas de caméra Enfin, on avait la vision directe à travers des lunettes transparentes, translucides en tout cas, mais qui avait en fait un gros défaut, c'était le field of view. On avait un problème de champ de vision, c'est-à-dire que dès que je regardais sur le côté, en fait, je voyais plus mon widget parce que bah, j'avais plus le projecteur en face des yeux.
Mais c'était la vraie limite. Il y a une similarité à voir avec, par exemple, au hasard, de nombreux produits qui ont mis longtemps à arriver parce que technologiquement, l'informatique n'était pas prête, les devices n'étaient pas prêts pour réaliser la vision, sans jeu de mots, qu'avaient les créateurs. Par exemple, les tablettes, pendant très longtemps, on n'avait pas de quoi les faire telles qu'elles devaient être faites, même les smartphones, ça a mis un moment. Là, j'ai l'impression qu'on est en train un petit peu... Peut-être que le HoloLens, c'était, je sais pas, le téléphone de voiture qui pesait le poids d'une valise, tu vois, le téléphone mobile qui pesait dans la voiture. Là, on commence à arriver au gros...
Mais je suis d'accord, mais en fait...
Tu vois, mais on n'est pas encore arrivé. À terme, on reviendrait, on imagine, sur un format type HoloLens avec des lunettes au-dessus des...
Exactement, et en fait, les deux visions qui s'opposaient entre celle d'Apple avec le Vision Pro et celle de Meta, c'est qu'en fait, l'usage définit le produit dans le cas du Vision Pro. C'est-à-dire que, suivre le regard, en fait, c'est ultra pertinent dans ce genre d'interface, en fait, de device. Chez Meta, en fait, on est parti de l'inverse. C'est-à-dire que techniquement, qu'est-ce qu'on peut faire de cet objet ? Et donc, on crée le métaverse, etc. C'est adapté vraiment à cet objet-là, mais ce n'est pas adapté aux usages des gens. Et c'est ça les deux visions qui s'opposaient. Le Quest 3 corrige une partie des défauts. C'est-à-dire qu'on se rapproche de ce qu'aurait pu être un Vision Pro bon marché, en fait. Un Vision Pro SE, si on devait l'appeler comme ça. Où il n'y a pas les capteurs de suivi des yeux, etc. Mais on peut pointer avec les doigts, on peut faire plein de trucs. On a des manettes, etc. Mais rendez-vous compte, déjà, le fait d'utiliser une manette versus le Vision Pro qui va utiliser le regard et uniquement un petit geste des doigts où on va juste faire ça. On regarde un objet, on fait juste ça et le focus se fait tout seul et tout. La différence d'usage, elle est colossale en fait. La différence de la façon d'utiliser est colossale.
C'est
un bon produit, pas cher si on veut tester. Après, je pense que malheureusement, ça va rester encore une fois un produit de niche. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on avait une partie de l'expérience et qu'il manque un truc derrière. Ça fait vraiment produit incomplet où on n'arrivera pas à avoir réellement, à moins qu'il signe un partenariat avec Microsoft, mais j'ai un gros doute sur l'idée, mais d'avoir vraiment la même expérience qu'on nous promet avec cet ordinateur spatial, en fait.
Oui, non, et puis surtout...
Et Meta n'est pas en capacité de faire ça.
Il y a des petites fonctionnalités intéressantes. Il parlait, par exemple, du fait d'avoir d'être sur un terrain de basket pendant un match au bord du terrain, ce qui est un truc qu'a présenté Apple également. Tout ça, c'est cool, mais si on veut vraiment l'utiliser pour faire des choses productives, bon, c'est un petit peu plus limité. Ce que je retiens en fait pour ce Meta Quest 3, c'est que si les possibilités d'usage, les fonctionnalités sont beaucoup plus évoluées, sont beaucoup plus développées, ça ne change pas vraiment l'attrait. Les personnes qui n'étaient pas intéressées par un Meta Quest 2 ne seront pas intéressées par un Meta Quest 3, je pense. Mais du coup, il y a un autre appareil. Je vais me tourner vers Corben, dont je suis sûr. Merci à la chatroom d'ailleurs qui nous disait c'est les Ray-Ban Stories, la première version.
Oui,
là,
Stories,
c'est les Ray-Ban Meta ou Meta Ray-Ban Smart Glasses qui, du coup, ont le nom de Meta et sont beaucoup plus développés. Est-ce que c'est les Ray-Ban Meta Smart Glasses, c'est ça? Est-ce que celle-là, elle t'intéresse, l'idée d'avoir un assistant virtuel intelligent avec toi tout le temps, de pouvoir streamer, je ne sais pas, pour montrer ton clavier ou montrer ton écran? Peut-être que ce n'est pas à toi que... Tu ne fais pas assez de live cuisine, mais parfois tu sors dans ton jardin pour faire du jardinage, donc tu vois,
streamer. Non, ce genre de lunettes, ça me fait penser aux lunettes Snapchat, tu sais.
Ouais, spectacles.
Les spectacles, il y avait ça un moment. Bon, après... ce genre de truc, autant sur le casque MetaQuest, là, j'ai beaucoup de critiques à dire sur ce genre de truc, mais sur les Ray-Ban, là, pourquoi pas, à tester en tant qu'outil, je pense que ça peut être pas mal, parce que la différence entre ça et un MetaQuest, c'est notamment le poids et le fait que tu ne sois pas enfermé. Parce que
c'est des vraies lunettes, hein. Ça ressemble, elles sont un peu épaisses, mais c'est des lunettes Ray-Ban qui ressemblent à des Ray-Ban.
Mais tu vois, autant le MetaQuest, juste pour revenir deux secondes là-dessus, moi je trouve que c'est toujours un bon produit, hein, c'est sympa et tout, mais c'est un truc dans lequel tu restes pas des heures parce que t'as chaud, tu transpires, à de la buée sur les lentilles. Enfin, c'est pas un truc forcément utilisable vraiment dans la vie de tous les jours. Alors que la Ray-Ban, à la limite, si tu veux filmer, si effectivement ça te fait un peu assistant IA et tu peux lui parler, machin, bon, pourquoi pas, quoi. Faudrait tester, en fait, c'est difficile de savoir exactement ce que ça peut rendre, ce que ça peut donner. Mais pour de la production de contenu, ouais, clairement, pour faire du live, des choses comme ça, ça peut être intéressant. En tout cas, il y a déjà des gens qui se filment comme ça avec des lunettes, hein, mais t'es pas forcément live. Après, moi, le problème que j'ai, c'est que je porte des lunettes de vue. Et c'est toujours la même question, c'est est-ce qu'on peut adapter des verres à ma vue sur ce genre de
vu
truc
que les... Oui, je pense que oui, vu que les verres ne sont pas... Il n'y a pas d'électronique possible, dedans, tu vois, tu peux mettre les verres que tu veux.
Oui, et c'est bon, prévu.
C'est ça. Mais en même temps, effectivement, je me vois mal me balader toute la journée avec et puis parler. Encore que, je me vois mal parler à mes lunettes, vu qu'on n'est plus dans un monde où on doit formater notre langage pour être adapté à ce que comprend Siri ou d'autres assistants, là, on est dans un monde où les IA génératives comprennent ce qu'on dit, vraiment, en langage naturel, peut-être que ça pourrait donner quelque chose. D'ailleurs, il y a des démos assez impressionnantes sur les nouveaux modes de ChatGPT qui fait ce genre de choses. Et justement, puisqu'on parle d'IA... Venons-en à la deuxième grosse partie de cette conférence, les éléments d'IA. Alors, il y a deux choses que je retiens. D'une part, bien sûr, les assistants. Alors, il y a deux types d'assistants. L'assistant classique de Meta, qui va être un assistant IA, qui fait mieux ce que faisaient les assistants intelligents qu'on nous promette depuis des années. À tester, hein, mais bon, donc c'est une sorte de ChatGPT qui peut répondre à nos questions, qui a été calibré par Meta pour mieux fonctionner, qui sera disponible un petit peu partout, hein. Il va être dans Facebook, dans WhatsApp, dans Instagram, etc. Et puis, il y a aussi les profils, les personnages qui ont été créés spécifiquement pour certains sujets. C'est des IA calibrées pour certains domaines, comme, par exemple, ils ont donné l'exemple du chef qui peut vous donner des conseils de cuisine, ce genre de choses. Il y a plein une experte en marketing qui va vous donner des conseils sur ce genre de trucs. Et puis, des trucs un petit peu plus rigolos, comme par exemple une IA basée un petit peu sur Snoop Dogg qui va être maître de jeu pour des parties de jeux de rôle. Alors, c'est vraiment débile, mais c'est rigolo. Et effectivement, c'est des choses qu'on peut faire avec ce genre d'IA. Il a aussi annoncé AI Studio, donc des moyens de programmer ses propres IA. On laisse ça de côté pour une seconde, parce qu'il y a une autre application qui est intéressante, c'est Emu, qui est un animal, donc, mais qui est leur moteur de génération d'images. Llama est leur moteur de génération de texte, Emu est leur moteur de génération d'images. Il fait des trucs qui ressemblent un petit peu à ce que faisait Midjourney, je dirais, en version 4, peut-être. Donc, ce n'est pas le dernier photoréalisme. Mais par contre, il les génère en 5 secondes. Et du coup, c'est hyper utilisable. Et il a donné des exemples hyper intéressants, comme par exemple le fait de générer des stickers. Vous savez, quand on cherche des stickers dans une messagerie pour envoyer un sticker, on tape une recherche et puis on va chercher sur ce qui est disponible. Là, on peut taper ce qu'on veut. Et ça nous met exactement, ça nous crée genre 4-5 stickers qui correspondent à notre demande, parce que c'est généré très vite grâce à ce modèle. Il a aussi montré, ils ont montré d'autres usages, comme le fait de générer, par exemple, des filtres Instagram. C'est-à-dire qu'on a notre photo, au lieu d'avoir des filtres qui ont été créés, eh ben on peut faire une requête IA pour transformer notre image en ce qu'on veut, finalement. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et puis, il y a des trucs pour faire des fonds d'écran en IA, etc. Mais tous ces éléments-là me paraissent être de vraies applications concrètes. Les stickers, par exemple, je me vois tout à fait les utiliser. Et il y a des trucs hilarants qui peuvent en sortir. Et c'est beaucoup plus, comment dire, naturel, en fait, que de devoir chercher parmi des stickers existants. Est-ce que je me fais des... J'ai trop bu le Kool-Aid que me vendait Marc Corben? Ou si,
non,
là, c'est vraiment des applications concrètes.
C'est assez cool quand même de pouvoir comme ça, assez facilement, en fait, c'est à portée de tout le monde, modifier la réalité, ton image, ta vidéo.
Les stickers, c'est les stickers qui me plaisent, moi.
Oui, après, oui, ou rajouter des stickers, des choses comme ça en fonction de ce que tu veux. Mais ouais, moi, je trouve ça super cool, hein, j'adore tous ces trucs-là. Donc, Non, c'est, enfin, t'as plus de limites, en fait, t'as juste ta créativité, quoi. Donc c'est ça qui est bien, c'est que.
Ouais. Il donnait un exemple de sticker. Il disait, je veux un hérisson content sur une moto, tu vois, et ça faisait un petit truc avec un sticker parfait pour ça.
Mais j'ai pas pu, je sais pas si c'est sorti encore, j'ai pas pu tester.
Pas encore, pas encore. C'est annoncé, ça se trouve, ça marchera pas bien du tout.
On verra.
Moi, c'est celui qui m'intéresse là, c'est le Meta AI Studio, en fait. Où tu entraînes ton modèle sur ce que tu veux pour avoir des résultats personnalisés. Il faut voir si la promesse est tenue ou pas, parce que bon, on se souvient aussi de Google lors de la Google I.O. qui avait annoncé vous allez pouvoir mettre vos documents dans Google Drive et le modèle va s'entraîner sur vos documents et du coup après vous pouvez interroger des PDF de millions de pages ou des documents Word ou des tableaux Excel de rapports de vos entreprises, etc. Bon, on attend, hein. Est-ce que ça va pas faire comme beaucoup de promesses de Google qui finissent par ne jamais voir le jour? Ouais, ça pourrait arriver. Donc, mais c'était prometteur, hein. Dans l'idée, tu vois,
tu dois envoyer tous tes documents du coup à Meta.
Non, mais déjà à Google et à tout le monde. Mais typiquement, tu vois, moi, je pense aux étudiants qui parfois doivent résumer des bouquins, résumer des trucs, etc. Alors, il y en a d'autres qui le font. Hein. On peut déjà avec ChatGPT, etc. Mais là, l'idée, c'est que ça peut travailler sur tes propres documents. Par exemple, je ne sais pas, si tu prends plein de notes de cours, il peut te faire une synthèse de toutes les notes que tu as prises en cours, en fait, que tu prends sur ton Google Drive. Et ça peut être intéressant, tu vois. Ou il peut même t'en faire un podcast, en fait, de toutes tes notes, ou te recréer un cours à partir de toutes tes notes de première année ou de deuxième année. Non, mais en fait, il y a plein d'usages hein, qui pourraient vraiment exister sur ce truc-là. Même pour une boîte, en fait, typiquement, il y en a beaucoup hein, qui utilisent Google Workspace pour le suivi même de leur compta sur des Google Sheets, hein, bêtement. Et ils peuvent te faire une analyse financière, t'optimiser plein de trucs, en fait. Donc, tu as un vrai data analyst à disposition pour n'importe quel type de commerce, tu vois. Ouais. Donc, il y a vraiment des vrais usages qui nous sont promis, mais qu'aujourd'hui, on ne voit pas encore arriver. Et ça, c'est un peu dommage.
C'est pour ça que je trouve EMU, hein, c'est un émou, c'est un animal, particulièrement intéressant parce que les IA génératives qui vont prendre... une minute à générer une image, c'est très cool pour certains usages, mais dans la pratique, dans le monde rapide de l'Internet du monde, c'est plus dur à utiliser de la même manière que s'il te faut une minute pour générer une voix, bah pour un assistant intelligent, ça ne marche pas bien. Donc, il faut des modèles qui sont capables, mais qui sont capables de faire vite. Et là, bah c'est le cas. 5 secondes pour générer une image de cette qualité-là, on est, comme je disais, autour de Midjourney 3-4. Oui. Ça a des vrais usages concrets. Et bien sûr, le fait d'avoir un maître du jeu avec la voix et la vidéo de Snoop Dogg. On ne sait pas combien ils ont payé d'ailleurs. Il y a Mr. Beast aussi qui est dans le truc. Enfin, plein de gens. Et...
Ouais. Bon, après, c'est Meta, ils ont un peu d'argent. C'est ça. Et d'ailleurs, juste pour info, ça va être déployé. Ça va commencer à être déployé en fait à partir du mois prochain pour certains utilisateurs anglophones seulement. Donc voilà.
Ça va commencer petit à petit.
Pardon, s'ils ont pris Snoop Dogg, parce que comme je pense qu'ils ont pris Snoop Dogg parce que comme le mec parle lentement, ça laisse le temps à l'IA de bosser en même temps et du coup t'as pas l'impression qu'il y a un décalage.
Sans doute, c'est possible. Donc tout ça, on l'a pas dit, hein, mais le Quest 3, c'est le 10 octobre. Les Ray-Ban, c'est le 17. Donc, et pour les trucs logiciels, ça va de... Enfin, il y a même des composants logiciels qui sont pas disponibles tout de suite dans le Quest 3, genre les comment ils appellent ça, les augments, c'est pas tout de suite, etc., etc. Donc tout ça s'étale, mais c'est, on va dire, dans les 6 prochains mois que tout ça devrait arriver. Bon, je crois qu'on a fait le tour de Meta, même si on va y revenir un petit peu tout à l'heure. Je voudrais vous parler de la FTC. Qu'est-ce qui se passe avec la FTC? Elle a lancé une procédure. La FTC, c'est l'autorité américaine qui s'occupe des marchés et de la concurrence. Et elle a lancé donc une procédure contre Amazon pour pratique déloyale, anticoncurrentielle. Il faut savoir que Amazon, il l'avait dans le collimateur depuis très longtemps, puisque la présidente de la FTC est Lina Khan, qui a écrit un papier largement partagé et reconnu en 2017 sur le fait qu'Amazon devrait être séparé en plusieurs entités pour des raisons de pratiques anticoncurrentielles. Évidemment, les choses ne se sont pas améliorées en 6 ans, hein, vous pouvez vous en douter. Et donc, la FTC a lancé cette procédure. Le cœur de leur argument, pour que vous compreniez pourquoi spécifiquement ils s'attaquent à Amazon, le cœur de leur argument, c'est que Amazon, par ses pratiques anticoncurrentielles, augmente les frais des vendeurs, qui sont un peu ses clients, mais surtout, par effet rebond, maintiennent des prix artificiellement élevés pour les acheteurs. Aux États-Unis, la concurrence est considérée essentiellement si elle pose des problèmes aux acheteurs finaux. Et c'est l'un des éléments que prennent en compte les autorités pour déterminer s'il y a ou non pratique anticoncurrentielle. Et en l'occurrence, il y a des choses comme le fait de forcer, on va dire, de forcer la main aux vendeurs pour qu'ils utilisent leur service de ce qui s'appelle le fulfillment. Fulfillment, c'est-à-dire quand on passe une commande, d'où elle vient dans les entrepôts, comment elle est envoyée, comment elle est livrée, etc. Et ben, les vendeurs doivent utiliser les services vendus également par Amazon pour ça. Sinon, ça leur coûte plus cher, sinon ils ont moins de facilité, etc. Il y a aussi le fait qu'ils doivent utiliser de la publicité. Là encore, ils ne sont pas forcés, mais aujourd'hui sur Amazon, vous l'avez certainement remarqué si vous utilisez le site, il y a la moitié des produits qui sont affichés quand on fait une recherche, qui sont de la publicité. Et donc, si on est un vendeur, on ne peut pas exister sans cette publicité. Donc, dans la pratique, c'est obligatoire. Et ce que dit Lina Khan et son autorité, c'est qu'aujourd'hui, en pratique, les vendeurs payent 50% de leurs revenus sur Amazon retournent à Amazon pour tous ces frais, pour tous les frais qu'ils doivent payer à Amazon. Et du coup, ils ne peuvent pas offrir des prix moins élevés, alors qu'ils le pourraient sans toutes ces obligations, ils ne peuvent pas offrir des prix moins élevés au consommateur final. Et donc, le consommateur final finit par souffrir de ces pratiques. C'est le cœur de leur procès. J'ajoute qu'en ce moment, aux États-Unis, il y a des procès contre Google, contre eBay, contre Microsoft avec son rachat d'Activision, etc., etc. Donc, ils y vont un petit peu sur tous les fronts. Celui-là est quand même sans doute l'un des plus importants. Bon, on pourrait parler de celui Google aussi, mais celui-là est l'un des plus importants. Qu'est-ce que vous en pensez de l'argument de la FTC et de Lina Khan ? Je pense que tout n'est pas blanc ou noir, mais Corben, est-ce que tu penses que Amazon nuit au pouvoir d'achat des clients ? Alors, on parle des États-Unis, mais ça peut se reporter en France aussi. Est-ce que tu penses que c'est difficile. Vas-y, je te laisse parler.
Non, je pense pas, parce que tu as tous les outils sous la main pour pouvoir filtrer, trier, classer par prix, comparer, etc. Donc je pense pas, au final, non. Mais ça me rappelle un peu le truc avec Google, tu sais, t'es pas référencé si tu prends pas les AdSense, les AdWords et que t'es en top sur la homepage de Google. Et... Je pense que c'est plus un problème comme ça, en fait, de visibilité par rapport aux marchands qui peuvent pas forcément... être très visible. Donc, je pense que c'est là que ça se situe le problème de concurrence. Mais c'est vrai que ça impacte pas, du coup, le client final.
Si, parce que si les vendeurs doivent dépenser plus pour être sur Amazon et que Amazon est tellement important, les prix restent plus élevés qu'ils ne pourraient l'être s'ils n'étaient pas obligés de dépenser autant, tu vois. Donc...
Je sais pas si
et finalement, si c'est plus cher, est-ce que c'est pas bon pour la planète puisqu'on consomme moins ? Non, je plaisante, pardon. Je m'égare. Mais finalement, est-ce qu'Amazon fait pas un geste pour la planète en faisant ça ? Ça va être la défense. Embauchez-moi comme avocat, Amazon.
Excusez-moi, je m'étouffe.
Je vais vous expliquer à quel point. Ce que vous êtes en train de faire est bon pour la planète. On pourrait appeler Dame Nature, d'ailleurs, comme chez Apple. Ça viendrait nous expliquer. Mais c'est vachement bien. Les gens consomment beaucoup moins. Du coup, les prix sont plus élevés. Non, mais en fait, c'est pour le coup, c'est un vrai racket. Hein. C'est un racket.
Mm-hmm. Je te laisse finir. Non, je vais inviter quelqu'un d'autre.
Non, vas-y, Corben.
Je sais pas si t'as prévu d'en parler, Patrick, mais là récemment, j'ai un mail d'Amazon, alors ça, c'est un vieux truc, hein, mais ça y est, c'est appliqué, où ils vont appliquer des frais de port maintenant pour les bouquins. Je ne sais pas si tu en as déjà parlé ou pas, mais bon, ça pour le coup...
Je l'avais dans les, dans les notes également, ouais.
Ouais, bah on pourra en parler après, mais bon.
Non, non, vas-y, vas-y.
C'est le genre de truc. Quoi. Bah là, là, pour le coup, il y a, on n'est pas aux États-Unis, là, on est en France ou en Europe, je ne sais pas sur quel stade a été voté, mais là, pour le coup, ça nuit aux gens, quoi. Ça nuit aux consommateurs. Puisque quelque part, alors après, je comprends hein, les bouquins, les libraires, tout ça, mais.
Non, alors il faut expliquer. Tu peux pas juste dire ça sera plus cher. Il faut expliquer pourquoi. France, il y a évidemment une concurrence démentielle entre Amazon et les libraires, et le prix du livre est protégé en France. Sauf que Amazon peut faire de la livraison gratuite. Mais les libraires, les petits libraires indépendants, ont beaucoup de mal à suivre sur la livraison gratuite. Donc, on avait fait dans un premier temps l'obligation de faire une livraison payante pour tout le monde. Payant. Amazon a mis la livraison à 1 centime. Donc, évidemment, ça n'a pas arrangé les affaires. Et là, la livraison passe à 3 euros minimum pour les commandes de moins de 35 euros, et on peut passer à 1 centime si on est au-dessus de 35 euros. L'idée étant d'avoir un minimum de pied d'égalité entre les libraires indépendants et Amazon. Alors certains vont dire, d'ailleurs c'est ce que disait Numérama, je crois, dont j'utilise l'article pour illustrer ce sujet. Il disait, oui, bah, du coup, on va commander que des trucs à 35 euros. Il y a des astuces du genre, on commande plusieurs trucs pour que la facture passe au-dessus de 35, mais quand on reçoit le livre, on annule la précommande d'un autre truc. Enfin, oui, on pourrait tout critiquer. Je ne suis pas sûr que ça soit hyper efficace, mais je comprends pourquoi c'est implémenté comme ça, quoi.
Ouais, ouais, non, mais je comprends aussi, mais si tu veux, au final, c'est pas. Enfin, c'est nous qui sommes pénalisés au final. Enfin, tu vois, ça. Parce que ça va pas forcément inciter les gens à aller acheter chez les libraires.
Bah pourquoi ?
Parce que tu penses que les frais de port vont faire une différence ? Parce que bah, après,
tu peux
si
commander.
T'es, si, t'es en...
Vas-y. Si c'est le même prix chez Amazon et chez ton libraire, tu vois, pour te faire livrer sur un autre site, peut-être que tu vas te dire, bon, oui. Bah. Alors, fait un peu l'avocat du diable, mais tu vas dire bon, bah, ouais. Je vais pas aller commander sur Amazon parce que j'économise plus ces 3 euros que j'aurais économisé autrement, tu vois. Bon, pour 3
oui,
euros.
Oui, oui, oui. Ouais.
Et surtout, bon, après, l'idée est de protéger les petites librairies hein, qui sont, je pense, importantes pour la vie de notre société, on va dire. En tout cas, c'est le principe. Il y a des gens qui vont dire bah « Oui, mais moi, je n'ai pas une librairie à côté de chez moi, j'habite à la campagne. » Donc oui, c'est vrai aussi.
C'est pas... Oui, c'est ça. En fait oui, la problématique, c'est qu'avec une décision comme ça, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Et, ouais. Et même, je trouve que...
Et dans le cas de Corben, on ne peut jamais satisfaire du tout.
Voilà. Non, mais donc, les librairies n'ont pas non plus toutes les références. Alors après, éventuellement les commander, etc. Mais ouais, c'est je trouve un peu dommage que... sous le couvert de protection d'un peu importe, hein, là c'est le cas des libraires, mais ça peut être autre chose, on nous impose des frais de port, ou typiquement dans ce cas-là, et en plus assez élevés, et en fait j'arrive pas à comprendre l'efficacité de la mesure, en fait. C'est vraiment ça, en fait. Ma vraie problématique, c'est ça.
C'est pour ramener le prix de la commande chez Amazon au niveau du prix de ta commande chez Livre et Feuille.
Ouais, mais du coup, ouais, ok, super. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va pas. Enfin, les gens vont pas faire la queue devant les librairies à partir du moment où
ils vont commander par la poste, tu vois, pour commander en ligne.
Ah, tu vois, j'aurais trouvé plus logique qu'ils autorisent les libraires à s'aligner en intégrant les frais de port dans ce qu'ils envoient.
Mais ils peuvent pas. Ils peuvent pas, c'est ça le problème. C'est qu'ils ont pas la puissance, la taille d'Amazon qui fait qu'ils peuvent absorber ce genre de choses. C'est ça le problème.
Ouais. Et pour en revenir au sujet initial, c'est un vrai racket en fait cette histoire-là. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez, alors on vous met en avant, mais que si vous prenez le pack plus. Et dans ce cas-là, on va prendre la moitié de vos revenus, hein, littéralement, c'est ça, hein, puisque pour, je crois que c'était l'exemple qu'ils donnaient, c'était. Pour pour 2 dollars gagnés, ils en dépensent 1 chez Amazon, les vendeurs. Donc, c'est ouais. Énorme, en fait. C'est énorme. Et après, ils vont t'expliquer qu'il y a tout le service, ils gèrent l'entrepôt, les retours, etc. on a droit au Prime, la petite pastille Prime, pour les frais de port gratuits et compagnie. Mais en fait, c'est extrêmement cher. Et en fait, est-ce que... Vous savez, en fait, il y a eu la grande période Amazon pendant le Covid. Forcément, tout le monde se faisait livrer puisqu'on ne pouvait pas sortir à consommer. Il y a eu cette grande période-là. Et rappelez-vous, juste après, il y a eu le fameux retour de bâton où on s'est mis à licencier des gens parce que forcément, ben, les commandes avaient chuté, etc. Et finalement, est-ce que ce n'est pas un moyen de préserver aussi sa marge et l'argent que gagne Amazon en se disant, bah, plutôt que s'attaquer aux consommateurs qui de toute façon vont nous fuir si nous on augmente les prix, etc., est-ce qu'on ne va pas finalement s'attaquer aux... Quand je dis s'attaquer, c'est s'attaquer au portefeuille hein, des vendeurs qui, après tout, on leur fournit une base de clients énorme. Mais c'est l'éternel problème, pareil, avec les stores d'applications. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que je paierais 30% à Apple ouais. Est-ce que c'est légitime ou est-ce que ça ne l'est pas, en fait? Mais là, en fait, c'est exactement la même chose, mais avec des biens physiques. Et l'argument de le consommateur paierait moins, j'entends, comment il s'appelle, Sweeney, qui, de chez Epic Games, qui dit en gros, ouais, mais si Apple prenait pas 30%, les gens paieraient moins cher leurs applications, etc. Enfin, on revient toujours au même argument des deux côtés, en fait.
Voilà. Je vais pousser un tout petit peu plus ton raisonnement, ou plutôt je vais inviter quelqu'un pour qu'il nous en parle un petit peu plus... Je vais défendre un petit peu ce pauvre Jeff Bezos, ou plutôt ce pauvre Andy Jassy, parce que ça rejoint en fait un petit peu les deux discussions qu'on a eues avec l'histoire du livre. Bien sûr que les frais de port, ça change, ça joue, ça pèse dans la balance, mais je pense que la raison, une raison encore plus importante pour laquelle les gens préfèrent acheter sur Amazon, c'est à quel point c'est pratique, parce qu'ils y retrouvent tout, parce que ça arrive très vite, parce qu'ils ont tout leur système avec Prime, avec etc. Et d'une certaine manière, je pense que c'est l'argumentaire que développe Amazon, quand, pour répondre à la FTC, ce qu'ils disent, c'est que on n'impose pas aux vendeurs d'utiliser nos centres de tri et nos entrepôts juste pour gagner plus d'argent, même si, bon, accessoirement, ça nous fait gagner plus d'argent aussi, mais aussi parce que c'est une meilleure expérience pour les clients finaux. Et que sans tout ça, les clients finaux, ils ne viennent pas autant chez Amazon. Ils viennent tellement chez nous parce qu'on leur fournit un service qui est tellement optimisé, tellement rapide, tellement pratique. Et d'ailleurs, les vendeurs, s'ils ne veulent pas stocker leurs produits dans nos entrepôts, ils peuvent. Nous, on ne leur impose rien. C'est juste qu'on leur propose ce service supplémentaire pour une partie de leurs revenus, pour un pourcentage, dans lequel l'expérience des clients est encore plus positive, encore plus agréable, et donc les clients reviennent. Et le truc... Je pense que tout ça, c'est vrai. Le truc, c'est qu'il y a du vrai dans les deux camps, comme souvent. Tout ça, c'est vrai. Et évidemment qu'on s'est tous mis à aller acheter sur Amazon, pas par gaieté de cœur, parce qu'on adore Jeff Bezos et qu'on lui envoie notre argent, parce que c'est vrai que l'expérience Amazon, que toute l'industrie en France et ailleurs a copié d'ailleurs, l'expérience Amazon, elle est plus pratique, elle est plus rapide, elle est plus fiable, etc. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a deux ans, enfin oui, bien sûr que vous vous en souvenez, il y a deux ou trois ans, les livraisons avec Amazon, tu avais une chance sur deux pour qu'elles arrivent. Depuis, ça a bien changé. Amazon s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Maintenant, ta livraison, tu l'as, la personne est gentille, polie. Je ne sais pas si elle est mieux payée, j'espère, mais ça se passe beaucoup mieux. Et maintenant, tu peux faire confiance à ton expérience sur le site. Donc ça joue. Et en même temps, ça coûte la moitié des revenus. Mais si tu es un vendeur, que tu as juste à poser ton truc dans l'interface Amazon et qu'après, tu t'occupes plus de rien, est-ce que ça ne vaut pas 50% de tes revenus? Je ne sais pas, mais peut-être que pour certains, oui. Quoi.
Bon. Je pense que ce n'est pas adapté à tous les produits. C'est surtout ça, en fait.
Le problème, en fait, c'est que dans la pratique, on n'a plus le choix. Pourquoi? Parce qu'Amazon a une position tellement importante que ça devient une position dominante et que ce soit l'intention ou pas, il y a des abus de cette position dominante. Donc, dans le fond, je crois que même si une autre expérience ne serait pas aussi positive pour les clients, peut-être que dans cette situation précise, puisqu'il y a une position dominante qui donne lieu à des abus, il faudrait quand même rectifier le tir. Et j'ajoute que dans une société... idéalement capitaliste, c'est le rôle de l'État et d'institutions comme la FTC de corriger les défauts du marché. sans partir trop dans la politique, dans l'ADN du capitalisme, c'est pas le marché libre sans contrôle. C'est un marché aussi libre que possible dans les limites de ce qui fait du mal aux consommateurs et aux citoyens. Et l'État, le rôle de l'État est de corriger ces problèmes. Donc on est pile là-dedans, je pense, dans ce que fait la FTC, quoi. Mais c'est, ouais. Si ce n'était pas une question difficile, il n'y aurait pas un tel débat. Et c'est vrai que non, tous ces éléments sont vrais en même temps, quoi. Dernier sujet. Alors, si vous vouliez un sujet encore difficile...
Allez, on
retourne. Ah non, c'est pas ça que je veux. C'est ça, c'est Twitter. Il y a eu un premier rapport de l'Union européenne dans le cadre du DSA, Digital Services Act, qui a étudié l'état de la désinformation et de la modération dans 3 pays sur les 6 premiers mois de l'année 2023 sur les réseaux sociaux. C'est une première étape. Les rapports suivants seront plus complets et étendus. Donc là, c'était une sorte de préversion. Mais donc, ils ont suivi, en Espagne, en Pologne, je crois, dans 3 pays. Et le résultat, ils ont suivi donc les pratiques de Facebook, de TikTok, de YouTube, etc. Et de Twitter. Est-ce que vous pouvez deviner qui a les pires pratiques de modération dans ce rapport ? Évidemment, c'est Twitter. Il y a une marge significative entre j'adore avec Sonoma quand tu fais les 2 pouces, Cédric, ça met des cotillons partout.
Ça a envoyé.
Bravo Twitter.
C'est ça.
Pardon, je dis Twitter, on dit X, oui, c'est X. Et donc des pratiques vraiment, enfin des problèmes de désinformation significatifs. Facebook est deuxième, alors derrière, mais deuxième. C'est marrant parce que le rapport lui-même montre tous les efforts que font les différentes sociétés en disant « machin a supprimé tant de millions de vidéos, truc a supprimé tant de millions de comptes, etc. » Y a des exemples de tout le monde, Google, Meta, TikTok, Microsoft, tout ça. Pas de Twitter, en fait. Ils ont pas donné des exemples de ce que faisait bien Twitter. Mais c'est particulièrement problématique. D'une part, parce qu'on a vu une recrudescence des comptes et des actions de désinformation, en particulier financées par la Russie. Il ne faut pas chercher très loin. Hein. Pas systématiquement, ce n'est pas vrai. Mais généralement, on a une activité qui est démesurée de la Russie dans ce genre de pratiques. Évidemment, dans le cadre de la guerre en Ukraine, mais pas que. Et c'est le cas sur les réseaux sociaux, c'est le cas sans doute ailleurs aussi, il faudrait voir les financements. Mais c'est vraiment un gros problème. Et c'est d'autant plus un problème sur X qu'on a vu des rapports de chercheurs qui ont noté que désormais, on ne peut plus signaler un tweet comme étant de la désinformation politique. Il y avait cette option dans le signalement d'un tweet. Elle a été supprimée. Et les chercheurs en Australie spécifiquement s'en inquiètent parce qu'il y a une élection qui arrive en Australie dans quelques jours, quelques semaines. Et donc, ils s'en inquiètent parce que c'est l'un des vecteurs de désinformation importants. Donc, bon, en gros, l'Union européenne, là encore, fait son travail pour essayer de corriger les problèmes de ces réseaux sociaux. Les tendances ne sont pas positives, en particulier sur X. Mais c'est un petit peu le cas partout ailleurs aussi, en partie parce que la droite américaine MAGA fait des attaques violentes sur l'idée même de la modération de leurs désinformations et de leurs fausses informations, ce qui refroidit un petit peu les ardeurs de certains réseaux sociaux. En plus, ça coûte de l'argent, j'imagine que c'est plus pratique de couper ça et d'économiser un petit peu. Mais ce rapport pointe particulièrement du doigt Twitter, enfin X, et bah, c'est une chose qu'il faut savoir. Je ne sais pas s'il y a énormément à commenter dessus, mais si vous voulez y aller, n'hésitez pas.
Bon, on se doute un peu quand même. Puis c'est
ouais, clairement. Mais moi, il y a plusieurs fois, j'ai voulu signaler des fake news en fait, sur X, mais c'est totalement impossible. En fait. On ne peut pas signaler de désinformation facilement. Essayez là, prenez un tweet au hasard et essayez de le signaler, vous allez voir. Même si quelqu'un affirme que la Terre est plate, en fait, on ne peut pas le signaler comme... En fait, on peut signaler les gens, surtout quand ils font... quand en fait, ils sur du harcèlement ou sur incite à la haine ou ce genre de choses... mais il y a beaucoup de choses qu'en fait on ne peut pas signaler. Typiquement des informations complètement fausses, y compris contre, je sais pas, sur les vaccins ou sur peu importe en fait, tous ces sujets-là. D'ailleurs, Elon Musk tweet à enfin, X ou tweet, je ne sais pas comment on va dire, mais poste, a posté aujourd'hui, je crois, ou hier, un truc justement sur les vaccins en expliquant que pourquoi est-ce qu'on impose, imaginez un monde dans lequel on impose un vaccin, on vous menace si vous n'êtes pas vacciné, et qu'en plus ce vaccin n'a aucun effet puisque vous avez déjà attrapé la maladie, etc. Enfin bon, on voit bien qu'il joue sur le truc. Le week-end dernier, il était à la frontière mexicaine. Pour montrer à quel point, il expliquait hein, 200 000 ou 400 000 personnes qui traversaient tous les mois.
Oui, il a posté vraiment... vidéo de lui en train de tirer avec son, sa mitrailleuse.
Ouais, il tire après avec sa grosse mitraillette, etc.
Franchement, je me demande vraiment s'il n'est pas en train de penser à se présenter à des élections, présidence, parce qu'il n'est pas né aux États-Unis, évidemment. Mais peut-être que ça l'amuse d'un état, de devenir sénateur ou gouverneur ou ce genre de truc. Et il est en train de se calibrer une présence politique dans la droite MAGA. C'est marrant, oui. Je parle depuis des mois maintenant de ce qui s'est passé le 6 janvier et j'essaye de mettre l'accent, de mettre en gras le fait que la droite MAGA et ce qu'a fait le camp de Donald Trump est incroyablement grave pour la démocratie. Fait de nier les résultats d'une élection démocratique est la pire chose que tu peux faire dans une démocratie.
Ouais, ouais.
Et les gens, maintenant, avec les procès qui commencent et tout ça, commencent à se rendre compte à quel point c'est le cas. Et j'ai eu plusieurs messages de gens qui m'ont dit « Ah ouais, Patrick en parlait à tel et tel moment. » J'ai l'impression qu'on ne s'en rend pas compte en France de ce qui s'est passé là-bas. Et ce n'est pas juste pour critiquer les États-Unis ou Donald Trump que je le dis. C'est pour signifier à quel point ce qui se passe dans cette mouvance-là est grave et dangereux. Il y en a sur Twitter, avec Musk. C'est pas...
Oui, et X, justement, est devenu leur porte-voix. Hein. C'est ça, en fait, qui est le plus dramatique, en fait, dans l'histoire. C'est que X est vraiment devenu le porte-voix de cette mouvance qui ratisse large, hein, des QAnon en passant par, justement... des gens d'extrême droite, racistes, néo-nazis, etc. Et tout ça se retrouve sous la bannière MAGA. C'est un peu, c'est un peu étrange. Les complotismes les plus débridés, c'est extrêmement grave. Hein. Enfin, en fait, c'est le jour où, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous, ce que vous étiez en train de faire ce jour-là, mais comme moi, je me souviens exactement ce que j'étais en train de faire le 11 septembre, mais là, je me souviens exactement ce que je faisais ce jour-là et ce dont je parlais. Et en fait, j'étais en plein dans la série Handmaid's Tale, la servante écarlate, et je me suis dit, waouh, en fait, il est en train de se passer exactement ce qui s'est passé dans la série où les gens ont pris par les armes le Capitole, en fait. Et le parallèle faisait flipper. C'est-à-dire que, est-ce que si ces gens-là avaient réussi leur coup, qu'est-ce que ça aurait donné, en fait ? Là, on rentre dans quelque chose de complètement dystopique et de complètement... et c'est extrêmement grave, en fait.
Et on n'est tellement pas passé loin. On est passé, en fait, à quelques centimètres d'un conflit beaucoup plus grave, qui était la décision de Mike Pence de ne pas déclarer l'élection invalide, ce que lui a demandé Donald Trump. Mais... si Mike Pence l'avait fait, ça a provoqué tout un tas de procédures légales, etc. Et la raison pour laquelle on parle de tout ça, ce n'est pas juste pour revenir sur le 6 janvier, etc. C'est pour dire qu'aujourd'hui, ce genre de choses, les promoteurs de ce type de méthode et de politique et de mouvance politique ont non seulement une voix sur X, mais... sont moins modérés dans leur désinformation sur les réseaux sociaux. Donc, on est vraiment dans le sujet. Là, on n'est pas parti dans une digression pour le plaisir. On est en train de contextualiser la raison pour laquelle ces problèmes sont extrêmement graves et pourquoi l'UE s'inquiète tellement de cette histoire de modération et de désinformation sur les réseaux sociaux. Alors, on n'a pas des liens directs établis entre la désinformation sur les réseaux sociaux et l'effet dans la société sur les votes. Ça, il y a des études contradictoires sur le sujet. Mais il n'empêche que la pratique est préoccupante, quoi. Bref. Corben, on a beaucoup parlé, Cédric et moi. Est-ce que tu veux
ouais,
nous...
ouais, bah...
est-ce que tu veux nous faire l'avocat non, du diable, nous dire que c'est bien de, non, de désinformer
non. Non, je parle... Bah non, je parle, partage votre avis. Et d'ailleurs, dans le chat, il y a quelqu'un qui demande, il y a Magellan qui demande qu'est-ce que vous qualifiez de désinformation. Bah, c'est assez simple, c'est juste des informations qui sont fausses ou pas vérifiées.
Non, mais je veux même pas tomber dans ce piège.
Je niais des
faits. Je veux même pas tomber dans ce piège.
C'est un piège,
tu vois. Qu'est-ce que vous qualifiez.
On sait bien, je me doute bien pourquoi il pose la question. Mais après, moi, ce que j'aime beaucoup et ce qui me fait beaucoup rire sur Twitter, c'est, tu sais, quand on peut annoter. Enfin, quand il y a des annotations sur certains
oui, les
tweets,
notes, ouais.
Avec les notes, c'est toujours très drôle parce que souvent, ce sont des personnalités, des politiques ou des médias qui se font épingler. Et avec la vraie source derrière, en tout cas la rectification, et c'est toujours assez drôle. Quoi. Je me demande si les gens les lisent, puisque en dessous, dans les commentaires, il y a toujours des gens qui croient ce qui a été raconté, ce qui a été dit, mais pourtant c'est là quoi. Donc ça marche quand même. Enfin, ça, c'est marrant parce que en même temps, Twitter, ça fait la promo de tout ça. Et en même temps, ils ont des outils pour contrer ça. Enfin, c'est un peu.
Tu sais, ils ont renvoyé là ces jours-ci 50% de leurs équipes qui travaillent à limiter la désinformation et les fraudes dans les élections. Tu vois. Ils avaient annoncé il y a un mois qu'ils allaient étendre ces équipes. Là, ils renvoient 50% de ces équipes. Donc,
ouais,
ils ont des outils.
Si on banne le rédacteur de la note, en fait, la note disparaît, même si on le réétablit derrière. Donc, du coup, je sais qu'il y a eu des choses un peu... voilà, bref.
Bon, donc, voilà pour ces sujets.
Pour faire supprimer une note, hein, c'est hyper facile. Hein, si vous n'êtes pas d'accord avec, vous faites un raid... où vous signalez la personne qui a rédigé la note, elle se trouve ban automatiquement par le système avec énormément de signalements, sa note disparaît. Voilà.
Les notes, j'y ai jamais cru, de toute façon. L'idée est intéressante, mais il faut tout un système derrière, c'est-à-dire que Wikipédia n'est pas
l'idée de base
relativement
est bonne,
mais, fiable, parce qu'il laisse tout le monde faire ce qu'ils veulent. Il y a aussi toute une équipe derrière de modération, de contrôle, de gestion justement sur les sujets qui sont pleins de contentieux, etc.
D'accord.
Bon, voilà pour les trois sujets importants. Je voudrais vous dire un petit mot sur l'information, la vraie, que vous devez retenir dans cet épisode, c'est où vous pouvez aller pour soutenir l'émission. C'est sur patreon.com/rdvtech. C'est totalement vérifié par les notes de l'émission, vous pouvez y trouver le lien, patreon.com/rdvtech, et vous pouvez, en allant là-bas, soutenir l'émission. Ah, j'ai pas encore fait mon vaccin Covid, ça s'entend. vous pouvez aller soutenir l'émission sur patreon.com/rdvtech. Pourquoi ? Ben, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est grâce à ça que l'émission existe. Peut-être que vous voulez avoir une émission sans pub, et du coup, vous pourrez avoir accès aux flux privés. Grâce à ce lien, en soutenant l'émission, vous pourrez avoir accès aux flux privés où il y a aussi des contenus bonus. Vous pouvez également le faire simplement parce que vous pensez que le travail que je fais est intéressant ou qu'il vous sert ou qu'il est important et qu'il mérite une compensation financière. Il y a plein de raisons pour aller sur patreon.com/rdvtech, mais un seul lien sur lequel on doit cliquer ou tapoter avec votre doigt sur l'écran, puisqu'il est dans les notes de l'émission, patreon.com/rdvtech. Merci à vous tous de soutenir le Rendez-vous Tech et de lui permettre d'exister.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Êtes-vous prêt à revenir dans le métavers ? Je vous disais que le métavers avait été absent.
Question suivante. Pas du tout.
Et non, il est bien là. En fait, Mark Zuckerberg a fait une interview avec Lex Fridman, un podcasteur qu'il aime bien. Et c'est la troisième fois qu'il allait chez lui, je crois. Une interview vidéo dans le métavers. Et je pense que il s'est rendu compte qu'il était trop tôt pour parler du métavers tout le temps, mais il n'a pas lâché son rêve, puisque l'interview se passe dans le métavers avec les avatars Codec, qui sont des avatars photoréalistes qui reproduisent les mouvements de la personne qui parle. Donc, on a vraiment quelque chose qui ressemble à une photo, qui est en fait un modèle 3D qui va reproduire vos mouvements, vos gestes, vos mimiques, les défauts de votre peau. C'est marrant d'ailleurs parce que Lex et Zuck disent, vous savez, on est les deux personnes les moins expressives du monde. Et on nous le reproche souvent. D'ailleurs, c'est marrant quand Zuck disait « Oui, on dit souvent que je ne suis pas très expressif. » Et tu as senti sa douleur, quoui. Et je me suis dit « Ah merde, moi aussi, je dis que c'est un androïde, que c'est un robot. Le pauvre, en fait, c'est un humain. Il souffre comme tout le monde. » Bon, je ne vais pas aller plaindre Zuckerberg quand même. Hein. Mais c'était un petit peu touchant, ce qu'il disait. Et ils ont parlé de tout ça. Et surtout, Lex Fridman dit... tout au long du podcast, que ce que je suis en train de vivre est incroyable. J'ai l'impression que tu es en face de moi. On est tous deux avec nos casques de réalité virtuelle. On est à des dizaines, des centaines de kilomètres l'un de l'autre. Mais j'ai l'impression que tu es en face de moi. C'est fou. C'est fou, ce sentiment de présence. Et donc, et il commence à parler de choses hyper intéressantes. Je mettrai le lien dans la newsletter aussi de ce podcast. Il parle de choses hyper intéressantes, comme par exemple, si on réussit à reproduire la personne en 3D de manière aussi réaliste, et qu'on commence à avoir une intelligence artificielle qui peut agir un petit peu comme elle, est-ce qu'on ne va pas avoir des moyens de l'utiliser au niveau thérapeutique pour des personnes qu'on a perdues, ou est-ce qu'on n'a pas un devoir, quel est le devoir des réseaux sociaux de laisser libre accès à ce genre de choses, enfin, des questions presque philosophiques qui étaient hyper intéressantes dans le podcast, mais surtout, pour moi, ce que ça dit, c'est que le rêve du métavers de Zuckerberg, dont je vous parle, moi, depuis des années, depuis sa première présentation, comme étant quelque chose que les gens ne comprennent pas, mais quelque chose qui est à 5-10 ans, bon ben c'était il y a 3 ans, donc peut-être à 2-7 ans, ou encore toujours à 5-10 ans, et ben c'est un truc comme ça, c'est ce simulateur de présence, et pas se balader dans un monde virtuel en 3D comme Fortnite ou ce genre de conneries. Pas du tout un métavers, ça. Ce dont il parle, c'est cette présence photoréaliste qui peut se téléporter entre guillemets n'importe où grâce à ses casques. Donc, moi, ça m'a impressionné cette vidéo et c'est le début de ce genre de choses. Je suis très curieux de voir où ils iront à terme. Quoi.
Ouais, ça a l'air pas mal. Hein. Moi, j'ai vu ça aussi. Ça avait l'air. Enfin, c'est hyper réaliste, quoi. Mais du coup, je me demande comment ils se sont modélisés. Je pense que si tu passes dans une machine qui te scanne en 3D sur toutes les.
Ah oui, c'est pas. Oui.
C'est alors, pas ce niveau de qualité, c'est pas. Non, c'est difficilement accessible à ce stade, oui. C'est compliqué.
C'est,
ça, ouais, non.
C'est pas tourne autour de moi avec ton iPhone et.
Alors, ils ont une version tourne autour de moi avec ton iPhone, mais évidemment, la qualité est moins bonne. Elle est impressionnante quand même, hein. Mais elle est moins bonne que la meilleure qualité.
Ouais.
Tout à fait. Donc, ça, c'était le métavers qui est toujours là. Et puis, quand je parlais de personnes virtuelles entre les avatars 3D photoréalistes et l'intelligence artificielle qui peut créer des personnalités, Casey Newton a écrit un article intéressant dans Platformer sur le mélange de ces deux choses, qui est une idée qu'on a déjà évoquée. Si on a des avatars 3D photoréalistes et une IA qui peut cloner relativement bien une personne et la voix d'une personne, peut-être qu'on va commencer à avoir des utilisations de ces personnes virtuelles, qui ne sont pas juste des IA, mais des personnes virtuelles, peut-être pour créer des réseaux sociaux pleins de personnes virtuelles qui n'existent pas. Enfin, il y a des utilisations vraiment intéressantes. Je peux voir... On a déjà des idoles virtuelles dont les gens tombent amoureux ou ce genre de trucs. Je peux voir un réseau social synthétique, comme l'appelle Casey Newton, avec des gens qui ne sont pas vrais. Et peut-être que la différence dans ce cas-là n'est pas si importante, mais je ne sais pas. Peut-être un réseau social où vous avez des conversations de groupe avec Patrick, Corben et Cédric pour parler de tech et vous vous intégrez à notre conversation et vous nous demandez ce qu'on pense de, des réseaux sociaux virtuels. Vous voyez, c'est l'inception des réseaux sociaux virtuels.
Ouais. C'est sympa de se voir et de s'immerger, en fait, finalement, comme si on était l'un en présence de l'autre, quoi. Je trouve ça quand même assez cool. Après, on le fait déjà, là, quelque part, avec les caméras et tout, mais c'est vrai qu'on n'est pas, on n'est pas dedans, quoi.
Bah, non, mais... Alors, c'est pas que dans le métavers, genre en 3D, mais simplement, si on avait une IA de Corben, parce que là, la qualité
de l'image... Plus besoin de Corben.
Plus besoin de moi, tranquille.
Plus besoin de Corben, non, mais c'est ça. Non, mais la qualité de l'image, on peut largement reproduire ça en 3D, tu vois. Là, c'est pas un truc qui a besoin d'être photoréaliste. Si ça reproduit ce que tu es suffisamment bien, c'est pas juste on n'a plus besoin de Corben, mais je sais pas, on pourrait avoir... Bah, parce qu'avec Corben, c'est forcément « Oh, on n'a plus besoin de Corben, on met Corben à la poubelle, machin. » Non, mais si on parle, par exemple, de, je sais pas, Snoop Dogg, tu vois, si on invite Snoop Dogg dans notre émission et qu'au-delà de l'effet marrant, nouveauté, bah, il peut nous parler de trucs qu'il connaît vraiment, de sa carrière, de je sais pas... T'as fait des trucs marrants, quoi. Évidemment, c'est...
Ah bah,
c'est...
Oui.
Mais après, est-ce qu'on a envie de parler à Corben ou à Clone Ben, tu vois?
Ouais, c'est ça,
en fait, l'idée. C'est pas exactement la même chose. Même
pareil.
Si on peut essayer d'arriver par mimétisme à faire croire qu'on est face à,
si
à Corben, mais...
Si c'est suffisamment proche, est-ce que... Parce que finalement, on te voit pas vraiment, là. Comme tu disais tout à l'heure... On ne te voit pas vraiment. T'es par l'intermédiaire d'une interface informatique. Moi, j'aimerais bien t'avoir en face de moi, mais ce n'est pas le cas.
Alors, comment on le sait, je suis un clone. Regardez, si je fais ça, j'ai même des effets spéciaux et tout. On voit bien que le décor est faux, que tout est faux, en fait.
Non, mais on y arrivera à ça, parce que de toute façon, on peut déjà créer des personnages, des choses comme ça. Donc, après... voilà, tu peux en... Par exemple, je sais pas, un mec qui a écrit plusieurs livres ou plusieurs biographies, autobiographies ou des interviews et tout, tu donnes tout ça à bouffer à une IA et après, elle peut s'exprimer comme lui, elle peut raconter des anecdotes sur sa vie, elle peut faire illusion, quoi. Mais tu seras pas... voilà, ça vaudra pas la...
Pour la visite de musée, c'est cool. Mais musée Grévin avec des automates qui parlent comme les artistes.
Non, mais des réseaux sociaux. Des réseaux sociaux avec que des gens intéressants, tu vois. Plutôt que d'avoir tonton Gérard qui poste des trucs vaguement racistes et sexistes, tu vois, ou des gens qui partagent des trucs de désinformation, tu peux avoir un réseau social où il y a que des personnes qui n'existent pas, mais qui sont sympas, qui sont drôles, qui sont intéressantes, tu vois. On va chacun se faire nos propres réseaux sociaux avec des personnes qui existent plus ou moins, ou alors, encore mieux, une version de Tonton Gérard, mais qui n'est pas relou.
Mais je vois ça plus comme une... je vois ça plus comme une bibliothèque vivante, quoi. Comme des vrais gens que tu interrogerais et tout. C'est plutôt, c'est plutôt comme si tu discutais avec un bouquin, en fait. Tu vois
Avec Siri, quoi. Non, je plaisante.
Mais
Siri aura avalé ChatGPT, tu vois, bon.
Quand on pourra mettre un flux RSS dans ChatGPT pour qu'il aille écouter tous les épisodes du Rendez-vous Tech, là, il y en a 500, 300, enfin, je dois avoir, 40 000 heures de podcast derrière moi, il y aura de quoi faire un Patrick assez... Mais alors, est-ce que vous voulez le Patrick de 2006 ou est-ce que vous voulez le Patrick de 2023? Des petits sliders, tu sais. Alors, comment tu
c'est
veux,
ça.
Que tu veux
Non, mais nous, on veut Fit Patrick.
Ah, vous voulez Fit Patrick? Je comprends. Bon, autre sujet, l'iPhone 15 Pro chauffe trop. Que vous avez suivi cette histoire, psychodrame. Il y a des gens qui ont commencé à...
Chaque génération, il y a toujours des défauts.
Il y a des gens qui ont commencé à dire « Mais c'est bizarre, mon iPhone, il chauffe quand même beaucoup, mon 15 Pro. » quand même, là, c'est un peu bizarre, quoi. J'ai du mal à le tenir dans les mains. Et évidemment, t'as l'escouade de défense d'Apple qui est venue au secours de Tim Cook, qui a dit « Mais enfin, qu'est-ce que vous êtes débiles ! Les iPhones,
vous
chauffent, ils doivent indexer les trucs à l'installation du nouvel OS. Les gens ne savent pas, machin. » Bon, bah, il se trouve qu'effectivement, il y a un problème qui fait que l'iPhone chauffe trop. En partie, un tout petit peu matériel. Non, en fait, c'est plutôt logiciel, et les puces ne sont pas en cause. Et il y a un problème notamment avec Instagram et d'autres petits trucs qui sont corrigés. Mais la cause principale, c'est essentiellement le design du système d'évacuation thermique qui ne fonctionne pas assez. Donc, ils vont devoir corriger ça en logiciel en faisant chauffer un peu moins. Peut-être qu'il perdra un peu de performance. Pas énormément, hein, ça va. Et il y a aussi les problèmes d'Instagram, etc. Mais moi, ce que je note, c'est presque plus le fait que il y a toujours des gens pour venir à la défense des gens. Ils peuvent pas s'en empêcher. Qu'ils aient raison ou tort, c'est pas...
C'est le 15 Pro, hein, pas le 15 normal.
Le 15 Pro, oui, avec le titane, voilà. Et le nouveau processeur. Et tu vois, par exemple, il y a eu une question à un moment, des gens qui disaient « Mais attends, est-ce que mon câble Android marche sur mon iPhone? Il charge moins bien, machin ?» Évidemment, ce n'est pas le cas. Un câble Android fonctionne très bien sur un iPhone. Ça n'a pas... Mais quand il y a des gens qui ont fait des tests, genre des publications qui ont dit « Bah oui, ça marche bien », il y a eu des gens aussi pour venir dire « Ah, bah bien sûr que ça marche bien !» Genre, à quel point votre identité est associée à cette marque pour que vous ne puissiez pas vous empêcher de venir la défendre.
Mais t'as les mêmes sur toutes les chapelles, hein.
Bien sûr. Mais,
c'est... Même... Voilà.
Mais tu vois, pour des personnalités, je peux comprendre. Pour des équipes de sport, je peux comprendre. Mais pour
c'est
des marques,
pour
tu vois, c'est... Bref. Intéressant que ça. Oui, pardon.
Non, je dis c'est pareil pour moi, les marques, les équipes de foot ou ce que tu veux, c'est pareil. C'est juste que les gens se rattachent à ça parce que ça permet de se comparer ou de se mesurer aux autres. Mmh. C'est tout.
Ouais, ouais.
Un iPhone, tous les autres plugs ont un Android.
C'est plus que ça.
C'est
plus que ça.
Ou t'es plus dans le luxe, quoi. C'est comme les. Enfin, tu vois, je sais pas.
Non, mais c'est même pas. Pour moi, c'est pas juste une question de genre, ah, moi, je suis classe parce que j'ai un iPhone. C'est que ces gens-là. Les fanboys et les fangirls ont tellement... Enfin bon, bref, on s'en fout, c'est pas...
Ils ont passé deux SMIC dans un truc et t'es en train de leur dire que c'est de la merde. Tu vois, il est normal qu'ils réagissent. Et parce que d'un
non,
côté,
mais
ils
c'est
ont
pas
tort,
qu'une question
donc
de...
ils se défendent.
C'est pas qu'une question d'argent, ça va au-delà. Tu vois, quand t'es investi dans une équipe de foot, c'est pas parce que t'as dépensé ton argent pour. C'est parce que t'as associé ton identité. Tu as fait de cette partie de ta vie une part de ton identité. Et quand on attaque ce truc, c'est comme si on t'attaquait toi. Mais ça va encore plus loin avec certains qui ont besoin, tu vois, quand on dit quelque chose, de venir. Genre, l'histoire de l'iPhone qui chauffe, c'est genre, bah, attends deux secondes, peut-être qu'il chauffe vraiment celui-là. Il y a tellement de rapports, tu fais pas la part des choses et tu es obligé de... il gère l'installation, évidemment, pauvre espèce de bus. Bref, plus intéressant que ça, Apple est en train de travailler sur un truc qui s'appelle Pegasus, qui n'est pas l'outil de hacking, qui est leur moteur de recherche. En fait, ils l'ont depuis des années. C'est un moteur de recherche qu'ils utilisent en interne pour faire des recherches sur l'iPhone, par exemple, ou quand vous faites une recherche web avec Siri ou avec vous invoquez le merde, comment ça s'appelle, pomme espace, pas Spotlight.
Spotlight,
voilà. Ils utilisent ce moteur de recherche d'Apple. Ils ont leur propre crawler, etc. Et donc, il y a un article intéressant de Bloomberg qui sera aussi dans la newsletter, qui dit que il est peut-être prêt, potentiellement. Il va arriver dans l'App Store également, ce moteur de recherche, et peut-être qu'un jour, il pourrait dépasser ce cadre-là, parce qu'Apple paye beaucoup d'argent à Google pour utiliser Google comme moteur de recherche principal. Peut-être qu'un jour, il pourrait... C'est-à-dire qu'il paye autant à Google que cette partie de leur business représente autant que c'est l'Apple Watch, je crois. Donc c'est beaucoup d'argent, et donc peut-être que ça arrivera. C'est pas tout de suite, mais un jour. Plus intéressant qu'Apple, tiens, un Raspberry Pi 5. Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est le nouveau modèle du Raspberry Pi. Le Raspberry Pi, c'est un petit peu le mini micro ordinateur qui peut faire beaucoup de choses et qui est très bon marché. En l'occurrence, c'est un modèle qui coûte $60, qui est mis en vente là, ces jours-ci, et qui est incroyablement puissant et fonctionnel. Il a plein de choses. Il a un port pour le, pour, enfin plusieurs ports USB, je crois, 2 USB 3, 2 USB 2. Il a un port display, il a un petit processeur qui peut faire beaucoup de choses. C'est un Cortex A76 à 2,4 GHz, qui est trois fois plus rapide que le Raspberry Pi 4. C'est une machine qui sert à plein de choses et à laquelle vous devriez peut-être vous intéresser si vous voulez avoir un petit, une petite bestiole pour expérimenter dessus. J'imagine que t'en as qui traînent des Raspberry Pi, toi, Corben ?
Ah ouais, j'en ai plein. Là, regarde, tu vois, hop, j'ai juste à tourner la tête. Regarde, j'en ai là. J'en ai partout, moi. Mais le 5, je ne l'ai pas acheté encore parce que j'en ai pas besoin. Mais par contre, ce qui est intéressant avec le 5, pour ceux qui, parce qu'une des premières utilisations pour le Raspberry Pi, pareil, c'est tout ce qui est Media Center, tu vois, genre te faire un petit Plex ou un petit Kodi sur ta télé, etc. Et celui-là va décode maintenant du 4K, donc du coup, ça va être intéressant pour... parce que c'est toujours un peu à la limite, tu vois, en termes de décodage, sur la Full HD, etc. Bon, là, normalement, ça devrait être vachement plus puissant, donc déjà, on va pouvoir regarder des films plus costauds. Donc ça, c'est pas mal pour les gens qui se font des... sont des media centers, etc. Et après, moi, je l'utilise pour plein de trucs. Hein. Enfin, après, c'est un ordi, tu mets Linux dessus, et après, tu bidouilles, tu installes ce que tu veux. Quoi. Mais...
Tu mets pas Windows dessus, quand même, sur un ARM.
Je pense qu'il y a moyen, mais c'est compliqué. Mais oui, c'est des versions ARM, donc je pense qu'il y a moyen de mettre un Windows
c'est
ARM.
Pas... Mais bon, après... Le Windows, Windows pourrait arriver sur ARM bientôt, mais pas encore. Mais... Enfin, si, il y a une version, mais qui n'est pas très satisfaisante.
Ah ouais, mais c'est pas ouf. Quoi. Ouais.
Ouais.
Donc voilà.
Et elle peut faire effectivement, c'est quoi, ces deux écrans 4K en 60 c'est ça, deux écrans 4K 60 FPS par HDMI, avec HDR. Ouais. Donc, c'est vraiment une belle petite bestiole, quoi, pour $60.
Ouais, ça a l'air cool. Bah, c'est surtout que le Raspberry Pi est en rupture de stock partout depuis des années. Là. C'est une horreur, tu peux plus en acheter, quoi, sauf si tu payes une fortune. Ouais. Donc là, je sais pas comment ça va être au niveau de l'approvisionnement, mais tous ceux qui sont en attente d'acheter ça, je pense que là, ça doit être déjà rupture de stock. Enfin, il doit y avoir déjà des délais de fou, j'imagine. Parce que ça fait tellement longtemps que tous ceux qui voulaient un 4, etc., ne pouvaient pas l'avoir. Là, le 5 sort. Bon, j'espère qu'ils ont prévu du stock, quoi. Parce que
vous pourrez en trouver, j'imagine, mais on vous laissera vous renseigner. Ça arrive avant la fin du mois. C'était pas sûr qu'il arrive. Intel a fait une annonce intéressante. Ils ont réussi à produire des processeurs dans leur usine en Irlande, des processeurs imprimés en 7 nanomètres avec le procédé Extreme Ultraviolet, le fameux EUV, sur lequel n'avait pas parié Intel il y a un petit moment. C'était quoi, il y a une dizaine d'années, ils étaient partis dans une autre direction. Et bah, ça leur avait coûté très cher parce qu'ils n'arrivaient pas à faire des puces aussi finement gravées que d'autres. Et bien là, ils ont réussi, et c'est une bonne nouvelle parce que il va y avoir plus de puces de meilleure qualité et de plus grande finesse dans le monde avec plus de concurrence. Et c'est fait en Europe, en Irlande. Donc ça, c'est une bonne nouvelle aussi pour des questions d'indépendance, évidemment. Quelques petites news rapides. Instagram est en train de chercher à redonner un petit peu de peps à Threads. Ils sont en train de, visiblement, c'est des rumeurs, mais ils sont en train de parler à plein de créateurs pour savoir qu'est-ce qu'il vous faut pour venir sur Threads. Parce que,
il faut le rendre disponible en Europe déjà, par exemple.
Par exemple, ça serait une bonne première étape. Meta serait aussi en train de discuter justement avec l'Union européenne de l'idée d'offrir un abonnement pour pouvoir utiliser Facebook et Instagram sans pub. À votre avis, ils réfléchissent à un prix de combien pour ça ? Combien vous seriez prêt à payer ?
Oh, sans pub.
J'utilise pas assez.
Ah, c'est pas.
J'utilise pas assez Insta. Donc.
Ouais, moi non plus, mais j'imagine que c'est quoi, $1 par mois ?
10 dollars, 10 euros par mois.
Oh, putain,
abusé. Et tu peux envoyer des photos en RAW que tu retouches en ligne, etc. Ou juste $10, t'as pas de pub ?
$10, t'as pas de pub. Hein. C'est tout.
Ah, wow.
Ah, tu peux pas envoyer genre des vidéos de 3 heures en 4K ou 8K
monde n'a pas la puissance d'Elon Musk dans la paume de sa main, Zuckerberg le pauvre. Donc non, c'est juste pas de pub. Enfin, c'est des rumeurs, je sais pas, mais voilà. Ça, c'est ce qu'ils sont en train de discuter. Évidemment, ça vient de toutes les discussions sur les données privées, les publicités personnalisées, etc. Et oui, TikTok, d'ailleurs, est aussi en train de tester un abonnement pour supprimer les pubs, mais ils n'ont pas dit ni combien ça coûte, ni où c'est en train d'être testé, etc. Et puis, à propos de réseau, Biril a contredit un rapport de SimilarWeb. SimilarWeb avait dit qu'ils étaient tombés à 16 millions d'utilisateurs mensuels en août. Eh bien, Biril a affirmé qu'ils en étaient à 25 millions et que c'est 5 millions de plus qu'en octobre 2022. Je ne sais pas si vous utilisez Biril. Vous savez, c'est cette application qui a fait des petits, d'ailleurs, notamment sur TikTok.
Ouais, j'ai utilisé un peu, mais je l'ai viré.
On prend des photos de nous au moment où ils nous envoient l'alerte et on prend une photo de nous avec les deux caméras, en fait, selfie et l'autre. Et c'est genre Biril, c'est tu prends dans l'instant à ce moment-là pour pouvoir voir tes amis. Moi, j'avoue que
c'est typiquement le genre d'appli où t'es esclave de tes notifs et de ton appli. Et moi, ça me saoule.
Oui, alors après, si tu le fais pas et que tu peux quand même prendre la photo, mais du coup, ça s'appelle un late.
C'est ça.
Ouais.
C'est un late, c'est pas un Biril. Mais je pense que c'est le genre de truc, tu vois, si t'es un peu plus jeune, tu sors tout le temps, tu veux montrer à tes potes.
Moi, les étudiants l'utilisent tout le temps.
Ah ben voilà, c'est ça. Tu vois, si c'est pour montrer... Ah bah là,
je l'avais installé, je voyais je l'avais installé, moi, et je voyais des photos d'amphi, de cours, etc.
Là, je suis en cours, là, je suis au bar, là, je suis en soirée, chez truc. Oh, regarde ce shot de vodka. Trop fort, machin. Bon, bah nous, forcément...
Et sachant que l'heure est random. L'heure est random. C'est-à-dire que tous les jours, c'est pouf.
Ah bah là, je me réveille de la cuite de la soirée dernière.
Là, c'est ça. Là, je prendrai la photo, je dirai, je suis avec Patrick et Corben sur le rendez-vous tech. Quoi.
C'est ça. C'est passionnant, palpitant. Un truc palpitant, Xavier Niel va financer à hauteur de 200 millions d'euros des projets IA. des projets IA en France, évidemment. Il veut établir un laboratoire de recherche à Paris et une conférence annuelle. Et entre parenthèses, on a des chercheurs extrêmement compétents en IA en France, on a déjà parlé de Yann LeCun, etc., qui vont d'ailleurs participer à la commission qui va rendre une étude au gouvernement dans 6 mois. On en parlait la semaine dernière, mais on a aussi Mistral IA, qui est une start-up qui a levé, je ne sais plus combien ils ont levé, beaucoup, et qui a surtout publié leur premier modèle qui est basé sur 7 milliards de paramètres. Ça détermine la vitesse et les choses-là, qui fait, selon eux, mieux que d'autres modèles qui ont 13 milliards de paramètres. C'est des gens qui étaient, je crois, chez DeepMind et chez Meta, justement, des Français qui sont venus en France lancer leur start-up. Tout ça est intéressant. C'est intéressant qu'on s'intéresse à l'IA, justement, et c'est intéressant que des gens comme Xavier Niel financent ce genre de choses. J'aimerais bien que d'autres gens très, très riches s'y intéressent également et financent ce genre de choses aussi. Mais voilà, donc il y a des choses qui bougent, évidemment, comme partout en France également. Je crois qu'on arrive à peu près au bout. Oui, on peut utiliser robot.txt pour dire n'utilisez pas mon texte pour générer de l'IA. Donc maintenant, vous pouvez, comme on peut se désindexer des moteurs de recherche, vous pouvez dire désindexez-moi de vos modèles d'IA si votre texte est disponible sur le web. Et on a entendu des rumeurs selon lesquelles Johnny Ive serait en train de travailler avec OpenAI, financé par Masayoshi Son, pour créer un appareil qui fonctionne avec de l'IA. Alors c'est quoi ? Ils disent un iPhone of Artificial Intelligence, bien sûr un terme utilisé pour attirer des gros titres, mais bon, à voir ce qu'il va faire Johnny Ive, il a un pédigré évidemment qu'il est difficile d'ignorer. Demain, Google présente son Pixel 8 et Pixel 8 Pro et Pixel Watch 2 et la dernière version d'Android. C'est demain, ça, au moment où on enregistre. Donc, vous en entendrez parler très vite et la semaine prochaine dans l'émission. On sait déjà à peu près tout, mais bon, parce qu'ils ont tout leaké eux-mêmes. Et surtout, je voulais vous quitter avec cette réflexion sur la sphère de Las Vegas. Vous savez ce que c'est, la sphère ?
Ah oui.
C'est... Ouais. Cette salle de concert et de conférence à Las Vegas qui est une immense sphère, c'est une sorte de planétarium mais gigantesque, et il y a des écrans sur l'extérieur et à l'intérieur. Et elle a provoqué énormément de railleries à ça quand elle a été dévoilée. Beaucoup de gens ont dit « Oh, mais enfin, on n'a pas besoin de ce genre de truc. Qu'est-ce que c'est que c'est cette folie des grandeurs américaines encore et tout ?» Vous savez quoi, moi, je trouvais déjà ça très cool, les effets que ça donnait à l'époque. Et là, on a vu les images d'un concert de U2 dans cet endroit, dans cette salle. C'est dingue, c'est incroyable ce qu'ils en font. Et c'est du spectacle, quoi. Franchement, il y a des je vous encourage à aller regarder un petit peu de quoi il s'agit. Vous pouvez trouver ça très facilement, mais peut-être que je la mettrai dans la newsletter aussi. Mais franchement, c'est du spectacle, quoi. Et c'est difficile de créer du spectacle aujourd'hui, mais comme on est entouré, c'est un petit peu le métavers, mais dans le monde réel, on est entièrement entouré de l'image, ça donne des effets de fou. Très impressionné.
Il voulait un petit peu de la Villette à Las Vegas, quoi.
C'est ça.
On va se faire une petite boule...
Sauf que ça a une taille, tu vois, c'est une salle de concert énorme. Et à l'extérieur aussi, ces écrans.
Mais les gens peuvent pas se rendre compte, faut vraiment tester ce genre de truc, parce que c'est super immersif. J'avais été à Poitiers, là, au Futuroscope. Bon, c'est pas une salle ronde comme ça, mais t'as un écran géant comme ça, qui est au-dessus de ta tête et tout. Et en fait, ce qui te diffuse, t'es vraiment immergé dans le truc, quoi. C'est assez impressionnant. Ça donne une sensation de, je sais pas, de grandeur, de vide, de truc, en fonction de ce qui te diffuse. Donc là, j'imagine même pas, ça fait, je sais pas, x10, x20, la taille. Donc j'imagine que ça doit être un grand spectacle, quoi. Ça doit valoir le coup, quand même, comme truc.
Ouais, je pense que c'est assez impressionnant.
Ce qui était impressionnant, c'est les vues externes, quand ils avaient fait la Lune, oui, ou la planète Mars, etc. On a l'impression que vraiment, l'objet est posé dans Las Vegas.
Ouais.
C'est assez hallucinant. Et YouTube, en fait, ils sont coutumiers du fait. Hein, ils avaient fait le 360 tour, 360 degrés tour avec, c'était l'époque de Vertigo, je crois, où ils avaient déjà installé sur scène, dans des stades, des écrans 360. Et du coup, en fait, il y avait des caméras qui filmaient tout autour et les gens dans le public les voyaient en immense sur des écrans 360, etc. Mmh. C'est pas étonnant que ce soit eux qui étaient pionniers du coup sur la sphère, puisqu'en fait ils ont déjà expérimenté ce genre de choses par le passé. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'était hyper impressionnant à l'intérieur, mais je trouve que à l'extérieur, l'objet, même si les gens rigolaient beaucoup du truc et tout ça, c'est impressionnant. Alors après, en termes d'écologie et de consommation, voilà quoi.
Hein. Que de la LED, c'est que de la LED.
Ouais, bien sûr, mais il y a combien de LED?
C'est
parce
sûr.
Que si encore il y avait une ou deux LED, ok, c'est que de la LED, pas de problème. Mais là, on parle de millions de LED, en fait.
C'est sûr, ouais. C'est sûr. Je me demande si... Enfin, tu vois, évidemment que la question écologique se pose, hein, je ne vais pas prétendre que ce n'est pas le cas, mais oui, il faut faire des efforts partout. Là, c'est une salle de concert quelque part et... C'est un lieu hyper commun où les gens vont pour se distraire un peu.
Après, il y a du soleil hein, dans le Nevada, on ne va pas se mentir. Hein.
Ouais.
Bon, à tout moment, c'est énergie green.
Mais peut-être, c'est ça.
Non, mais c'est sûr, c'est pas comme si on en avait une chacun chez soi.
C'est ça, voilà.
Ah, ça, j'avoue.
Tu vois, c'est une grosse salle de ciné, quoi, ou l'équivalent de 10 salles de ciné, j'en sais rien, mais je ne sais pas si c'est la meilleure cible pour le combat pour l'écologie, tu vois, c'est un petit peu... Mais peut-être que je ne connais pas assez des détails de cette sphère. Bon, en tout cas, merci beaucoup Corben, merci beaucoup Cédric. Vous m'avez aidé à passer un moment formidable en parlant de tech. Formidable, inquiétant, intéressant, passionnant. Si les auditeurs veulent plus d'inquiétude, de passion et d'intérêt, où peuvent-ils aller pour te retrouver, Cédric ?
Eh bien, moi, sur le réseau préféré de ton complotiste d'extrême droite préféré, sur X, à Cédric Deluca, avec le chiffre 2, et Lucas et Luca, voilà.
Très bien, merci beaucoup, Cédric. Faudra peut-on réconcilier l'usage de X et la personnalité d'Elon Musk ? C'est un débat difficile. Corben, si on veut du clone Ben, ou en tout cas ce qui mènera un jour par ton travail acharné dans l'IA et dans la programmation à, je n'en doute pas, une version clonée de Corben, où est-ce qu'on peut te retrouver ?
Ah bah, sur un réseau social de Jones, hein, TikTok, donc Corben Info, évidemment. Et puis mon site, corben.info. Après, partout, tu tapes Corben slash...
Tu tapes Corben, tu trouves Corben.
Corben, le nom du réseau social, tu vas me trouver.
Très bien. Merci beaucoup à tous les deux. Pour ma part, c'est Notepatrick sur tous les réseaux sociaux également. Je suis sur Blue Sky, qui est étrangement actif, Blue Sky, dans la communauté française.
Si tu as une invite, je suis preneur.
Ah, mais bien sûr. Je t'en envoie une tout de suite.
Mais go.
Venez sur le réseau Discord, il y a des gens... sur notre Discord, il y a des gens qui s'échangent les invites. Et comme j'en avais envoyé quelques-unes et d'autres personnes en ont envoyé, bah, il y a des invites qui tournent sur notre Discord pour Blue Sky. Ouais. Donc, si vous en cherchez, vous pouvez aller là-bas. Je suis aussi sur Mastodon, évidemment, un petit peu partout. Twitch, tous les mardis midi, jeudi midi, pour le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu. Et bien sûr, on a les replays, hein, si vous ratez les vidéos sur Twitch, elles sont en replay sur YouTube. Et bien sûr, Patreon, patreon.com/rdvtech. Redites-le avec moi, patreon.com/rdvtech. Merci. Et quand vous rentrez chez vous, cling, les clés dans le bol, Patrick, cling, Patrick. patreon.com/rdvtech. Je ne vais pas sortir de votre tête avant que vous n'alliez au moins regarder la page et que vous y jetiez un coup d'œil. Je dis pas rien, c'est comme ça. C'est pas moi qui fais les règles. Merci à tous et à toutes. Je vous fais de grosses bises et on se retrouve dans une semaine. Ciao, ciao.